Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de 16 disputes, même le samedi. Ravi de vous retrouver en direct, bien sûr, avec Face à Face ce soir. Éric Revel, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Ravi de vous retrouver.
Merci.
Et Nathan Devers, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Nathan Devers. Éric Revel, Nathan Devers, et une actualité lourde et chargée ce soir. On y va tout de suite avec ces 46 morts désormais à Marseille depuis le début de l'année, des décès liés au trafic de drogue, vous le savez, après le meurtre à la Kalachnikov de deux individus. Cette scène glaçante dans le quartier plutôt tranquille des Chutes-la-Vie, dans le 4e arrondissement de Marseille. Les riverains expriment leur peur et leur ras-le-bol. Soumaïa Lalou, Stéphanie Rouquier, Adrien Spiteri.
Les impacts de balles de Kalachnikov et les traces de sang sont encore visibles. Dans le quartier des Chutes-la-Vie à Marseille, les habitants sont sous le choc après une fusillade jeudi dans une rue commerçante.
J'ai entendu de gros coups, mais je pensais que c'était comme ce que faisaient les jeunes d'habitude, les feux d'artifice. Je pensais pas que ça arriverait dans ce quartier surtout. Enfin, c'est tranquille ici, il se passe jamais rien. Du coup, c'est un peu stressant, on va dire.
Face à l'inquiétude qui atteint ce quartier jusqu'ici épargné par les violences, certains riverains expriment un sentiment de résignation.
N'importe où, ça peut tirer. Voilà.
C'est Marseille ?
C'est Marseille.
On vit pas dans la crainte, honnêtement. On n'y pense pas en permanence. On est un petit peu habitué.
Depuis le début de l'année dans la ville, en conséquence du trafic de stupéfiants, plus de 40 personnes ont déjà perdu la vie, dont 3 sont des victimes collatérales.
Là maintenant, avec le type d'armes qu'ils utilisent, on se dit qu'une balle perdue, ça peut très vite arriver.
Au fatalisme et à la peur se mélange aussi le ras-le-bol.
Jamais, jamais ça a été comme ça. J'aurais jamais cru que Marseille deviendrait comme ça. Franchement, pourtant, moi, je suis un Marseillais. J'aime Marseille, je ne veux pas me sortir de Marseille, mais ça suffit.
Les auteurs de cette attaque sont toujours en fuite. Une enquête en flagrance a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée.
Et notre interrogation ce soir, Éric Revel, n'est pas tant de savoir ce que l'on peut faire, ce qu'il faut faire pour régler ce problème, c'est de se demander si cette violence, cette ultra-violence est en train de gagner du terrain partout en France, notamment à Marseille. On a entendu des policiers, des habitants dire qu'on est en sécurité nulle part dans cette ville. Avez-vous le sentiment que cette violence s'impose désormais ?
Il y a de la violence un peu partout. On parlait tout à l'heure de cet horrible drame à Versailles, mais il y a comme une spécificité marseillaise, quand même. C'est pas dans toutes les villes où vous avez quasiment toutes les semaines un ou deux morts, plus des victimes collatérales, parce que j'insiste, ce qui est très inquiétant, c'est la violence qui est due au trafic de drogue, mais c'est aussi ces gens qui sont des passants sans souci. Je pense à cette étudiante qui était en train d'étudier chez elle tranquillement et qui a été tuée d'une balle dans la tête par un tir,
Une balle perdue, en fait.
Une balle perdue. Ouais. Bon, il y a quand même, dans cette deuxième ville de France, me semble-t-il, une spécificité. On dit plus de 40 morts, c'est ça, depuis le début de l'année. Enfin, c'est absolument terrifiant.
46, très exactement.
Maintenant, ce qui est vrai, vous avez raison, parce que la violence, elle est liée, évidemment, au trafic de drogue. Bah, on sait que le trafic de drogue, il est présent jusque et y compris dans les plus petites communes françaises, maintenant. Donc, est-ce que ça veut dire que ce qu'on vit à Marseille aujourd'hui, qui paraît hors de contrôle, pardonnez-moi, mais c'est pas quand vous déplacez la CRS-8, les crimes continuent, les règlements de compte continuent. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver d'ici quelques années dans ce type de situation un peu partout dans le pays, notamment dans les grandes villes, où le trafic de drogue continue de prospérer ? C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce qui est vécu à Marseille, qui pour l'instant, heureusement, est quand même assez spécifique, on ne va pas le voir dans des villes. À Paris, il y a quelques règlements de compte qui sont liés à la drogue. Et vous vous souvenez de cet agent immobilier à côté de la place de la Madeleine qui avait été abattu, si je me souviens bien. Bon, on ne sait pas trop les raisons et on ne suit pas d'ailleurs, nous, les médias. On parle de l'événement, puis après, il n'y a pas de droit de suite, malheureusement. On n'éclaire pas ensuite. Bon. Mais est-ce que ça veut dire que la situation marseillaise va devenir une situation au Havre où le trafic de drogue est très important ? Une situation nationale ? Oui, c'est ça la vraie question. Je suis incapable de vous répondre. Mais ce qui me terrifie quand même, même si les Marseillais dans ce reportage disent qu'ils ils s'habituent, mais est-ce qu'on peut s'habituer à l'idée qu'on peut prendre une balle n'importe quand on se promène ou quand on se promène avec ses enfants ? Enfin, c'est la première des libertés dans un pays comme le nôtre, ça devrait être d'assurer la sécurité des Françaises et des Français. Or, aujourd'hui, pardonnez-moi, je ne vais pas verser dans une démagogie folle, je ne sais pas si Nathan sera d'accord avec moi, mais moi j'ai été extrêmement frappé, extrêmement choqué par cette jeune étudiante qui étudiait chez elle devant son ordinateur, qui a été tuée d'une balle perdue en pleine tête. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire au niveau symbolique ? C'est même pas des règlements de compte entre truands, entre racailles, c'est des gens qui vaquent à leurs occupations, qui sont chez eux, et qui peuvent aller jusqu'à mourir.
La jeune Soukaina, et ce n'était pas la première d'ailleurs, notamment à Marseille, une maman aussi quelques mois auparavant.
Donc il y a eu 3 ou 4 victimes collatérales.
En effet, et il aurait pu très bien y en avoir sur les images mais horribles que l'on voit à chaque fois, puisqu'il y a des rafales, et s'il y avait
mais
eu...
Quand vous regardez la vidéo, il y a une voiture blanche qui est juste derrière. Imaginez que le type sorte et veuille intervenir, mais il se prend une rafale pareille.
Il y a un tel décalage en fait, Nathan Dever, entre la réalité, ce que l'on voit, malheureusement, et ce que l'on peut observer également dans des séries de bandits, de mafias, de règlements de comptes. Il y a un rapprochement entre l'univers du cinéma, notamment, et la réalité aujourd'hui. Mais ce qui fait dire, et c'est ça qui est très inquiétant, qu'on est en sécurité nulle part aujourd'hui. Est-on en sécurité à quelque endroit que ce soit, ou y a-t-il un risque ?
Il me semble déjà qu'il faut remarquer que ces violences-là, il y a deux types de violences criminelles. Vous avez des violences qui sont individuelles, quelqu'un qui va commettre un crime, et c'est pas pour comparer leur gravité, hein, mais je veux dire, c'est très difficile à analyser. Mais là, on est confronté à des violences qui sont des violences structurelles, ça veut dire qu'ils sont le fruit non pas d'une décision personnelle, mais d'un réseau. Et d'un réseau, en fait, qui est organisé pour ça. À partir du moment où vous rentrez dans un trafic de drogue, il y a deux issues possibles, il y a la prison, où il y a le sang versé, la mort, ou d'ailleurs les deux. Il n'y a pas 3 issues possibles. Ces réseaux-là, ce sont des réseaux qui sont générés, si vous voulez, pour briser des vies. Alors là, on en a des images concrètes, c'est-à-dire la mort liquide, le sang versé dans des rues, la possibilité qu'indiquait Eric aussi de viser des gens qui sont des cibles collatérales avec des balles perdues. Vous avez ensuite des destructions de vie, entre guillemets, métaphoriques. Enfin, des gens qui se retrouvent à être en prison, des petits gamins qui se font recruter dans ces réseaux-là pour gagner 3000 euros par mois en sachant que ils sont appâtés ainsi et que c'est des salaires que leurs parents n'ont jamais touchés et qu'ils savent très bien qu'ils ne toucheront jamais et qui se retrouvent ensuite à avoir une vie brisée dans un engrenage de violence avec une sorte d'épée de Damoclès où ils ne peuvent pas en sortir. La vie brisée, naturellement, des gens qui habitent dans ces quartiers et qui ont la vie gâchée par les trafics qui peuvent avoir lieu. Et puis, la vie brisée. Enfin, il faut quand même retracer le fil de l'argent. Je suis conscient de radoter sur ce sujet, mais chaque fois qu'il y a des règlements de compte qui impliquent des trafics de drogue, moi je pose toujours une question très bête, mais avec quel argent a été achetée l'arme en question ? Et cet argent-là, c'est un argent qui est donné par les consommateurs. Donc il me semble que face à cela, il faut poser la question de la drogue en France. Nous sommes un des plus grands pays de consommation de drogue, et notamment de cannabis d'Europe. Tout cela se fait, chaque personne qui consomme du cannabis le fait en donnant de l'argent à des réseaux, et derrière ces réseaux, il se passe des choses de cette nature, des vies brisées. Et donc ça pose cette question-là, avec quand même, à mon avis, un constat qui est important. C'est qu'on le sait au moins depuis Manuel Valls, mais que la réponse policière et pénale est inefficace. C'est-à-dire que quand on investit les quartiers où les trafics de drogue ont lieu et qu'on demande aux forces de l'ordre de rester là comme ça pendant 3 ou 4 semaines, alors ça peut marcher pendant 3 ou 4 semaines, mais si vous voulez, c'est de la poudre aux yeux. Quand on démantèle un point de deal, quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, il est reconstitué à quelques mètres. Quand on arrête quelqu'un, un petit vendeur ou un chouf, et qu'on le met en prison, eh bien le lendemain matin, ce sont des engrenages, des rouages interchangeables du réseau, donc ils sont remplacés par d'autres personnes. Donc cette réponse-là ne marche pas. Alors face à cela, il faut évidemment investir davantage dans la police judiciaire pour détecter les têtes de réseaux. Et il faut aussi poser la question de qu'est-ce qui fait que ces réseaux puissent s'implanter sur des quartiers difficiles où l'État a reculé et où le contrat social est en lui-même abîmé.
Ça, c'est le domaine de la répression et de la justice, notamment des moyens qu'on met à disposition de la police. Mais vous avez parlé des consommateurs de drogue. Et ce débat, on l'a eu. Mais je repose la question encore, Nathan Dever. Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis, notamment? Est-ce que la consommation de drogue doit être plus libre, de manière à ce qu'on paupérise ce marché, ce trafic, pour arriver à l'endiguer?
Alors c'est une question à mon avis très importante. Ouais. Je précise d'abord que moi je n'en consomme absolument pas, parce que vous allez voir avec ma réponse, je sais que parfois il y a un peu conflit d'intérêt pour les gens
qui vont dire ce que je vais dire,
mais je n'en consomme pas. Donc il me semble que ce qu'on peut reprocher aux consommateurs de cannabis, il ne faut pas se tromper sur ce qu'on leur reproche. Moi, je ne suis pas du tout dans un argumentaire hygiéniste. J'estime qu'un individu a le droit de détruire sa propre santé en étant alcoolique, en étant fumeur, en étant consommateur de drogue. Ça, c'est sa responsabilité individuelle et il s'auto-détruit, c'est une chose. Je ne pense pas que dans un état de droit, on puisse l'en empêcher. Ce qui me dérange, moi, chez les consommateurs de cannabis, c'est qu'ils financent, ce que je viens de dire, des réseaux qui sont dangereux pour le pacte social. Et que parfois, alors, beaucoup d'entre eux sont dans un lien de dépendance, ils ne le font pas volontairement, mais on a aussi des enfants bourgeois, des beaux quartiers, ou pas que des enfants d'ailleurs, qui, pour faire des soirées mondaines, consomment énormément de drogue, tout en critiquant par ailleurs l'insécurité, mais en consommant. Donc face à cela, moi je ne suis pas dans l'argument hygiéniste, mais je suis dans l'argument de la responsabilité sociale. C'est pourquoi il me semble que, de toutes les manières, on n'empêchera pas les gens de consommer de la drogue. Le premier pays consommateur de cannabis d'Europe ne deviendra pas demain, les gens ne vont pas arrêter demain d'en consommer, même si la législation se durcit, ils continueront d'en consommer. Donc il me semble qu'il faut quand même vraiment ouvrir la question de la légalisation de certaines drogues, des drogues entre guillemets douces, comme le cannabis, pour permettre de faire en sorte de ne pas rentrer dans cette registre de la responsabilité sociale.
Mais dans le trafic de drogue, Éric Revel, il n'y a pas que le cannabis, il y a la cocaïne aussi. Donc,
bien sûr.
On va pas aussi légaliser la cocaïne.
Ah, évidemment que non. Moi, j'aurais un raisonnement un peu moins équilibré, pardonnez-moi, que celui de Nathan Dever, pour une raison très simple, c'est que je pense que la violence est telle aujourd'hui autour des trafics de drogue que la première arme, c'est la répression. C'est la répression. Vous ne pourrez pas expliquer à cette maman qui a perdu sa fille dans son appartement qu'il faut avoir un volet social. Je pense que le trafic de drogue a pris tellement de place dans la violence au quotidien que vivent les Français, que la première réponse, c'est une réponse de répression avec les forces de police notamment. Je ne vois pas d'autre issue pour l'instant. Après, on peut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on consomme de la drogue. Très bien. Mais aujourd'hui, quand vous avez 40 morts à Marseille, vous allez essayer de... Bon, et puis... Il faut se dire aussi les choses. Vous avez nombre de mineurs non accompagnés qui sont la proie des réseaux, notamment de drogue. Ces mineurs non accompagnés qui se baladent en France, bah, parfois ils se retrouvent à être des chauffeurs dans les cités parce qu'ils vont gagner de l'argent et parce qu'ils sont utilisables, corvéables, à merci, par ces réseaux de trafiquants de drogue. C'est donc une question qu'on doit aussi se poser.
Faut-il faire un lien donc entre la violence dans sa globalité, avec l'immigration?
Ben, écoutez, en tout cas, on va parler peut-être tout à l'heure...
Et pas uniquement dans le cas du trafic de drogue.
Voilà. Alors, on va parler tout à l'heure de ce qui s'est passé à Versailles.
Oui.
Je crois que c'est un Algérien sous OQTF.
Exactement.
Pardonnez-moi, mais me revient encore aux oreilles ce que le président de la République avait indiqué en 2019. 100% des OQTF seraient expulsés de ce pays. Si vous êtes sous OQTF, c'est que vous n'avez rien à faire en France. Vous n'avez rien à faire, sinon vous n'êtes pas sous OQTF. En fait, on est incapable d'avoir une reconduite aux frontières pour les tas de raisons qu'on connaît. Puis c'est encore plus difficile aujourd'hui, puisqu'on réussit quand même l'exploit d'être fâché à la fois avec la Tunisie, à la fois avec le Maroc, à la fois avec l'Algérie, si vous voulez. Bon. Donc là, la coupe est pleine. Mais en fait, moi j'aimerais que le président de la République se réexprime. En 2019, je crois que c'était dans une interview à Valeurs Actuelles, il avait expliqué que dorénavant, 100% des OQTF seraient reconduits et seraient expulsés dans leur pays. Ça ne s'est pas passé.
Non, ça fait deux ans qu'ils auraient dû quitter le territoire.
Ça fait deux ans, mais pardonnez-moi, je vais être un peu terre à terre parce que je suis comme ça et parce que j'essaie d'être concret. Mais quelqu'un, un criminel sous OQTF qui torture, qui viole une femme, comme ça s'est passé à Versailles, s'il n'avait pas été sur le territoire, cette femme... elle continuerait à vivre sa vie normalement. Pardonnez-moi, c'est un peu terre à terre, c'est un peu, mais c'est la réalité. En tout cas, c'est ce que vivent les gens. Mais il faut arrêter d'être dans des cénacles, si vous voulez, de réflexion très approfondie. La réflexion, c'est bien, mais les gens qui se font violenter, les gens qui se font agresser dans la rue par des OQTF ou pas par des OQTF,
voilà.
Les gens qui
on
se
ne peut
font
pas généraliser, Eric
non, Cornel. Les gens qui se font tuer dans leur immeuble parce qu'ils ont eu simplement le tort d'être là au mauvais moment. Ces gens-là, vous leur dites quoi? Vous leur dites qu'il n'y a plus de sécurité d'assurer en France dans un pays comme le nôtre?
C'est la question qu'on pose ce soir. Et on se demande effectivement s'il y a des endroits encore ou demain des lieux qui seront sains et où on sera en toute sécurité. Versailles, qui est tout de même une ville bourgeoise, qui a une bonne réputation, berceau de l'histoire française, le château, évidemment, ça fait partie des monuments de l'histoire de France. Et bien, c'est l'horreur qui s'est produite effectivement dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 septembre avec cette sexagénaire qui a été ligotée, rouée de coups, violée pendant plusieurs heures chez elle. Son calvaire a pris fin à l'aube quand elle a réussi à se réfugier chez une voisine. On en parle avec Éric Revel et Nathan Devers, mais d'abord le sujet de Sacha Robin et Clotilde Payet.
C'est ici à Versailles qu'une femme de 67 ans a vécu l'horreur absolue dans la nuit de mardi à mercredi. Elle a été retrouvée nue et ligotée en pleine rue après avoir été violée et séquestrée à son domicile.
C'est mon voisin qui habite juste à côté de la dame qui nous a interpellés pour nous dire que la police voulait nous parler. Donc nous, on était au courant de rien, on est descendus et c'est là en fait qu'ils nous ont tout expliqué.
Souffrant d'insomnie, la sexagénaire avait décidé de prendre l'air dans la cour de son immeuble. C'est à ce moment que le suspect s'est jeté sur elle en l'étranglant.
C'est une cour commune pour tout le monde du 51 bis, sauf moi et ma coloc, on a une entrée sur la rue. Et dans cette cour commune, en fait, ma voisine apparemment fait une insomnie et le monsieur était là quand elle est sortie dans la cour.
Il lui aurait demandé de l'emmener dans son appartement avant de lui asséner une multitude de coups de poing, de la ligoter et d'abuser d'elle pendant des heures. Des faits qui ont provoqué l'effroi dans le quartier.
Franchement, ça m'a vraiment choquée puisque j'habitais pas loin d'ici, à Buc, et que aussi on est des mamans toutes seules avec nos enfants et ça fait vraiment peur.
Un suspect d'une trentaine d'années a été arrêté le lendemain des faits. La carte bancaire et les bijoux de la victime étaient cachés à son domicile. De nationalité algérienne, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis février 2022. Il a été placé en détention provisoire.
En effet, donc l'agresseur OQTF, pour autant, doit-on généraliser? Quand on parle de violence et d'une globalisation de la violence, Nathan Devers, doit-on généraliser et établir ce lien, peut-être de manière systématique, entre l'immigration et la violence?
Non, mais déjà, les faits, là, c'est abominable, c'est insoutenable. Et c'est en fait très difficile de faire le moindre commentaire politique face à ça. On est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'inimaginable. Et je sais pas, je m'imagine que si les proches de la femme qui a vécu ça m'écoutaient commenter pour dire qu'il faut pas en tirer de conclusions politiques, ça leur semblerait insupportable. Et je le comprends pleinement. Mais ce que j'aimerais dire quand même, c'est qu'il me semble que quand on parle de faits tragiques, j'aime pas l'expression de faits divers, mais de faits tragiques, qui engage donc des vies, qui engage des craintes, qui engage une indignation métaphysique devant le mal, là, dans son expression la plus radicale, y a un glissement parfois qui se fait entre justement le caractère métaphysique de cette indignation, qu'on a tous, et un caractère politique, à vouloir se dire qu'est-ce qui aurait pu éviter si, etc., et à vouloir surtout tirer une conclusion universelle d'un cas particulier en faisant des abstractions, c'est-à-dire en retenant d'une situation. Il y a un texte de Hegel qui s'appelle « Qui pense abstrait ?» où il parle des faits divers, entre guillemets, ou des faits tragiques, et notamment des crimes, et il dit que quand il y a un crime, souvent ce que fait le débat public, c'est que dans le cas de la figure du criminel, on retient deux ou trois mots abstraits qui vont permettre comme d'expliquer, entre guillemets, causalement la raison de son crime. Donc on va pour retenir le métier, l'origine, etc. Et ça va dire, voilà, un criminel sous OQTF, enfin quelqu'un sous OQTF.
L'origine est un mot abstrait ?
On pourrait dire, oui, il n'y a pas de lien causal. Là, on pourrait dire mille choses. On pourrait retenir, vous voyez ce que je veux dire, la couleur de ses cheveux, son métier, son âge, son salaire. Là, on choisit une catégorie qu'on met en récit, même si sans dire qu'il y a un lien causal, ça insinue plus ou moins cela. Et je pense qu'il faut faire attention au glissement. Et que si on a des questions politiques à poser, il faut les poser à l'échelle générale, il faut les poser avec des statistiques globales, annuelles, nationales, et pas sous le coup de l'émotion. Et que même en en politique, on raisonne rarement quand on est sous le coup d'émotions comme quelque chose qui est de l'ordre, là, encore une fois, je le répète, de l'abominable.
Ce fait divers abominable, en effet, horrible, qui... Parfois, même, puisqu'on est obligé de le commenter, d'en parler, banalise cette violence, mais qui se déroule à Versailles, Éric Revel, parce qu'on parle souvent de Marseille, de Lyon, de Paris, très justement, de villes moyennes également, qui sont happées par le trafic de drogue, par les violences. Mais là, c'est Versailles.
Bon, oui, mais
quel rapprochement faire entre la violence et Versailles, un fait divers aussi horrible.
Non, il y a plus de frontières autour du pays, il n'y a pas de frontières au crime à l'intérieur du pays. Enfin, les truands, les voyous, les tueurs vaquent à leurs occupations et passent.
Donc on est en sécurité nulle part.
On est en sécurité nulle part, je pense. Bah, pour une raison très simple, c'est que vous allez plutôt dans une ville où vous espérez que votre crime vous rapportera plus que si vous allez dans une banlieue déshéritée, je n'en sais rien. Mais où je ne suis pas du tout d'accord avec Nathan, pardonnez-moi, c'est que OQTF, justement, ce n'est pas un mot abstrait. OQTF, ce n'est pas un mot abstrait, mon cher Nathan. Quand on est sous OQTF, ou alors on élimine complètement les OQTF et on dit en fait, on est totalement impuissant, mais arrêtons d'expliquer aux gens qui sont sous OQTF qu'ils vont être expulsés, alors que dans ce cas précis, il aurait dû quitter le territoire il y a 2 ans. Donc ce n'est pas du tout un mot abstrait, OQTF. Ou alors ça n'a aucune valeur, c'était juste un petit concept pour amuser les gens et pour les rassurer. Mais en fait, on sait très bien que quand on n'a pas le bon papier pour expulser la personne en direction du pays d'origine et que le pays d'origine n'en veut pas, eh bien en fait, on ne peut pas l'expulser. C'est ça la réalité. Mais si vous voulez, comment est-ce que vous voulez que les gens croient encore à la parole politique ? Croit encore à la parole politique, quand on leur explique, et je regardais, non seulement le président de la République l'avait dit en 2019, mais Olivier Véran l'avait réaffirmé. Aujourd'hui, vous allez dire quoi à cette femme qui a été agressée, qui a été violée ? Non, c'est pas un fait dramatique, Nathan. Je reprends le mot, c'est un fait de société. La société est en train de basculer sans limite dans une violence sans limite où il n'y a plus de repères. C'est ça qu'on est en train de vivre. Hein, je ne sais pas si certains criminologues vous disent il n'y a pas plus de délinquance aujourd'hui. D'autres vous disent mais pas du tout. Il y en a plus. Certains vous disent la caisse de résonance des réseaux sociaux est telle qu'on s'appesantit sans arrêt. Mais pardonnez-moi, on n'agit pas sous le coup de l'émotion, Nathan, parce que l'émotion, elle nous prend tous les 2 jours. Tous les 2 jours, on est devant non pas un fait abstrait, mais un fait concret et réel d'une nouvelle agression. Que ce soit quelqu'un sous OQTF ou pas, il n'y a plus de limite. Ces jeunes tueurs qui manient la Kalachnikov, mais ils sont dans un jeu vidéo, ils tirent dans tous les sens, il n'y a plus aucune règle sur rien. Oui. En fait, on a perdu des repères. Donc arrêtons de parler de faits dramatiques ou de faits divers, il s'agit bien de faits de société, parce que notre société, malheureusement, je le pense vraiment, a basculé dans la barbarie. Souvenez-vous de Jean-Pierre Chevènement qui parlait des sauvageons. Déjà, on l'avait montré du doigt. Heureusement qu'il était socialiste, parce que sinon, on l'aurait traité de facho. Mais déjà, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, disait « on a des sauvageons ». Eh bien, des sauvageons, on est passé à l'ensauvagement. Et moi, je crains qu'on bascule dans la barbarie.
Il vous reste quelques secondes pour répondre. Pardonnez-moi.
Très vite, en quelques secondes, cher Éric, moi, je pense que vous tenez un raisonnement doublement abstrait. Premièrement, parce qu'on ne peut pas, absolument pas mettre sur le même plan ce qui s'est passé à Marseille et à Versailles. Dans les deux cas, c'est dramatique, le sujet n'est pas là. Mais on ne peut pas mettre sur le même plan une violence, encore une fois, individuelle et une violence structurelle. Ce n'est pas du tout la même chose, un réseau et un criminel isolé. Premièrement, et deuxièmement, l'OQTF, au contraire, et comme vous l'avez d'ailleurs dit, l'OQTF, ce n'est pas une expulsion de facto. D'abord parce qu'il y a des recours, ensuite parce qu'il y a la question des laissez-passer consulaires. Peut-être d'ailleurs qu'on pourrait dire que ça porte mal son nom, que ça ne devrait pas s'appeler une obligation de quitter le territoire, parce que de facto, ce n'est pas encore une obligation effective.
Ça justifie en rien le fait qu'ils soient encore sur le territoire et surtout qu'ils...
Non mais oui, mais là où c'est abstrait, c'est par exemple, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a plein de gens qui sont sous OQTF et qui ne sont pas expulsés, des gens qui travaillent dans des restaurants, des gens qui travaillent au black, etc. et qui sont sous OQTF. Et je veux dire, c'est pas uniquement quelque chose qui est réservé à des gens qui sont sur le point de quitter le territoire.
Certes, ça se passe mais la violence, l'OQTF, ce n'est pas un alibi en tout cas pour justifier
non,
la violence.
Non, il n'y a aucun droit de pour justifier
évidemment.
Ça.
On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Ça se dispute avec Nathan Dever et Éric Revel. À tout de suite. Éric Revel et Nathan Dever nous accompagnent pour Ça se dispute. Nos débats continuent dans quelques instants. D'abord, un point sur l'actualité. Félicité Kindoki.
Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé d'avancer sa nouvelle campagne de vaccination et c'est également le cas dans d'autres pays européens. Elle sera ciblée à partir de lundi sur les populations les plus à risque avec de nouveaux vaccins. Initialement, la vaccination anti-Covid centrée sur les plus vulnérables devait s'effectuer en même temps que celle contre la grippe à partir du 17 octobre. Dans l'affaire du meurtre d'un quadragénaire lors des fêtes de Bayonne fin juillet, 6 hommes ont été mis en examen pour homicide volontaire et non dénonciation d'un crime. Âgés de 21 à 27 ans, ils sont déjà connus de la justice pour certains. Par ailleurs, une femme de 33 ans a également été placée sous contrôle judiciaire. 15 personnes ont été interpellées mardi à leur domicile, puis mises en examen après l'incendie qui avait entièrement détruit la mairie de Persan dans le Val d'Oise et endommagé le poste de police municipale lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël fin juin. Selon le ministère de la Justice, au 1er août, 2107 personnes ont été jugées, 1989 ont été condamnées, dont 90% à une peine d'emprisonnement.
Merci Félicité, on vous retrouve à partir de 22h pour un prochain point sur l'actualité. Deuxième partie de Ça se dispute avec nos invités Éric Revel et Nathan Dever. Et on parle de la crise migratoire à présent, avec notamment Lampedusa et les dirigeants des 9 pays méditerranéens de l'Union européenne, dont la France et l'Italie, qui se sont retrouvés à Malte hier pour accorder leur position, en particulier donc sur l'immigration. Cela n'a pas empêché la première ministre italienne Giorgia Meloni de reprocher à son homologue allemand de financer l'action d'organisations caritatives sur son territoire sans consulter le gouvernement italien. On en parle, mais d'abord explication de Sandra Ciombo.
Giorgia Meloni l'a annoncé, l'Italie ne veut plus accueillir des migrants sauvés par des ONG étrangères. La chef du gouvernement italien rejette un amendement présenté par l'Allemagne jeudi à Bruxelles sur le statut et le rôle de ces organisations.
Je comprends bien sûr la position du gouvernement allemand, mais à ce moment-là, s'ils veulent revenir sur les règles des organisations non gouvernementales, alors nous proposons donc un autre amendement en vertu duquel le pays responsable de l'accueil des migrants transportés sur un navire d'ONG est celui du pavillon de ce même navire.
Accusé par Rome de financer plusieurs ONG de secours en Méditerranée, Berlin a défendu leur rôle.
Les sauveteurs en mer volontaires ont pour mission de sauver des vies en Méditerranée. Ils s'engagent à lutter contre la mortalité en Méditerranée avec humanité parce que le Centre européen commun de sauvetage en mer n'existe plus.
Concernant les relations entre l'Italie et l'Allemagne, pas de quoi s'inquiéter, selon la ministre allemande des Affaires étrangères.
L'amitié entre l'Allemagne et l'Italie ne se limite pas à deux ministres ou deux gouvernements. Elle dure depuis des décennies. Et ce qui est bien, c'est que lorsque vous avez des points de désaccord, ce qui est manifestement le cas, vous pouvez le dire directement et ouvertement afin de trouver des solutions.
Entre juin et août dernier, au moins 990 migrants ont fait naufrage en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Italie.
Et la question que je vous pose, Nathan Dever, pour commencer, y a-t-il une part de responsabilité dans cette crise migratoire émanant des ONG, de ces associations humanitaires qui sont financées par les États notamment et qui agissent pour que les migrants puissent retrouver ou découvrir le sol européen ?
La Méditerranée, on le sait aujourd'hui, c'est une banalité de le dire, mais c'est une banalité horrible, est un cimetière. Un cimetière avec des milliers de personnes qui meurent chaque année. Depuis 10 ans, on est à le chiffre exact m'échappe, mais plus des dizaines de milliers de gens qui sont morts en étant noyés dans la Méditerranée. Qu'à partir de là, il y ait des ONG qui œuvrent pour essayer de sauver des vies humaines, ça me semble être, si vous voulez, on l'a vu d'ailleurs quand le pape est venu à Marseille et qu'il a dit cette chose évidente. Il a dit finalement tous les pays et tous les politiques voient cette situation sous un angle utilitaire, un angle rationnel de la raisonnement politique du monde et ils en oublient, ils sont dans le fanatisme de l'indifférence et ils en oublient ce qui devrait être le fait premier, à savoir que vous avez une mère qui est devenue, et en plus une mère qui est quelque part dans notre civilisation, dans notre imaginaire, la mère fondatrice de notre civilisation.
Mare Nostrum.
Exactement, le mythe Europe tient son nom du mythe d'Europe qui a précisément traversé la mer Méditerranée. Et donc le fait que la mer Méditerranée soit devenue un cimetière devrait être le fait majeur. Qu'à partir de là, des ONG s'occupent de sauver des vies, c'est non seulement normal, mais c'est salutaire. En revanche, il y a un aspect qui est central, c'est que les pays européens se sont engagés de manière non contraignante juridiquement, mais se sont engagés moralement à répartir l'accueil des migrants, et ils ne le font pas. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas normal que les migrants soient, que les pays n'accueillent pas les migrants qui arrivent en Italie de manière équitable selon leur engagement. Notamment l'Allemagne, on l'a vu ces derniers temps. Ça, c'est vrai. Mais ensuite, s'en prendre aux ONG comme si c'était eux qui étaient à l'origine de ces phénomènes migratoires, c'est une chose particulière. Et deuxièmement, on le voit même. Je ne sais pas si on va en reparler tout à l'heure, mais je le dis au cas où. Mais quand Elon Musk, qui n'a aucune légitimité politique,
ouais,
qu'on avait déjà vu nous expliquer comment il fallait régler le conflit russo-ukrainien, en étant assez proche des positions poutiniennes sur la question, nous expliquer maintenant que le gouvernement allemand ne devrait pas financer telle ou telle ONG et que l'AFD devrait gagner l'élection pour pouvoir se débarrasser enfin de ces vilaines ONG qui ont le tort de sauver des vies, ça, vous voyez, ça crée quand même un climat où on voit bien qu'il y a derrière une instrumentalisation politique qui me paraît évidente.
Cela veut dire, Éric Revel, sauver des vies, quel qu'en soit le prix, quoi qu'il en coûte.
Non, mais qu'une ONG, qu'un bateau affrété par une ONG sauve des vies pour éviter qu'on ait des milliers de morts, ça me semble normal. Maintenant, Nathan fait mine d'ignorer, mais il n'ignore pas, qu'il y a aussi des bateaux d'ONG qui travaillent avec des passeurs et qui savent très bien où se trouvent les bateaux des ONG qui vont récupérer les bateaux sur lesquels on a rançonné les gens pour leur faire miroiter un avenir meilleur en Europe. Bon. Mais sur le fond, pardonnez-moi, mais l'Allemagne ne manque pas d'air. L'Allemagne ne manque pas d'air. Parce que subventionner des ONG, dont je rappelle que la juridiction européenne dit très clairement que les bateaux qui arrivent de ce côté-là de la Méditerranée doivent accoster sur les côtes les plus proches en Europe. Donc
là, l'Italie.
Donc l'Italie ou la Grèce. Bon. Oui. Mais alors que l'Allemagne, dans le même temps, il y a une semaine et demie, refuse maintenant d'accueillir des migrants, pardonnez-moi, mais Berlin et le chancelier Olaf Scholz se moquent du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en réalité, la politique migratoire européenne est un fiasco. C'est un fiasco. Ça fait 4 ans que les Européens travaillent sur une charte asile et migration. 4 ans. On nous dit tous les 4 matins, c'est pour faire rire avec les 4 ans, que ça va aboutir, qu'on va trouver un accord. Mais en fait, plus la vague migratoire est importante et elle ne va pas se ralentir, plus en fait l'Europe affiche son impuissance à traiter ce problème. Parce que non seulement il n'y a pas de quotas répartis dans les différents pays, mais l'Italie est obligée d'accueillir, je crois qu'ils sont à 140 ou 150 000 migrants sur leur sol, et les autres pays européens ne prennent pas de quotas. Donc,
les Allemands en ont accueilli beaucoup.
Très bien, pour cela très bien. Non, attendez. Non, mais là, pardonnez-moi, je mets le doigt sur un point qui me semble important. C'est-à-dire qu'en même temps, ils veulent continuer à subventionner des ONG, les Allemands, mais ils refusent d'accueillir les migrants qui arriveraient grâce aux bateaux des ONG qu'ils auraient subventionnés.
Ah oui.
Mais enfin, c'est absolument n'importe quoi. Mais ça prouve qu'il y a une espèce de vent de panique et que chacun est en train de se renvoyer la patate chaude en se disant... D'ailleurs, notez une chose, c'est que Mme Meloni, qui était infréquentable depuis quand elle avait été élue, c'était l'extrême droite qui arrivait en Italie. Vous vous souvenez de la première rencontre entre le président de la République et Mme Giorgia Meloni? C'était dans l'ombre d'une terrasse où on voyait le président. Enfin, tout ça n'était pas... Et maintenant, tout le monde va voir Mme Meloni.
Il y a un vrai rapprochement.
Bon, voyez. Donc, en fait, c'est un acte d'impuissance absolument formidable qui m'inquiète beaucoup parce que, évidemment, cette vague migratoire ne va pas s'arrêter. Vous avez des gens qui souffrent, vous avez des gens qui payent pour venir, vous avez des gens qui vont être victimes d'inondations avec le réchauffement climatique et qui vont devoir quitter les endroits où ils vivent. Donc ça va être extrêmement croustillant. Et puis juste un mot sur le pape, parce qu'évidemment il a parlé de ce fanatisme, et c'est acceptable ce que dit le pape. Sauf que j'ai beaucoup aimé l'analyse de Kepel, Gilles Kepel, qui a expliqué, et j'étais passé complètement à côté.
Il était invité sur CNews le matin.
Oui, qui a expliqué un truc qui m'a frappé. Il dit, mais en fait, bien sûr, ce pape est un pape qui vient d'une famille qui a migré d'Italie vers l'Argentine, donc il est le fruit de son enfance, il a beaucoup travaillé avec les pauvres, bon, très bien, c'est la foi catholique, très bien. Mais il avait remarqué une chose, Gilles Kepel, c'est que l'évangélisme protestant progresse en Amérique du Sud, l'islam progresse plutôt en Afrique, et le catholicisme est en train de se réduire comme peau de chagrin. Et Kepel, sans employer le mot, dit, mais en fait, c'est la défense d'une part de marché. C'est-à-dire que ces migrants, si vous portez notamment leur sort, qui n'est pas enviable, eh bien, vous avez peut-être une chance que certains se convertissent au catholicisme, ou en tout cas regardent cette religion qui, pour des raisons qu'on n'ignore pas, est en train de se réduire. Alors, je ne dis pas que c'est qu'une part de marché, mais j'avais trouvé l'analyse de Gilles Kepel un peu provocatrice, peut-être, mais assez juste.
Quelques chiffres, d'ailleurs, pour agrémenter notre propos, avant que je vous cède la parole, Nathan Devers, notamment ce sondage, c'est ça, c'est News, qui date d'il y a peu de temps, véritablement, mais une majorité de Français, notamment, le disent. Faut-il arrêter de subventionner les associations pro-migrants ? La réponse est oui, à 61%, parce qu'il y a cette incapacité effectivement à pouvoir accueillir tout le monde. Et comme l'a dit le président Emmanuel Macron récemment dans son interview, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais quand il y a cette problématique des ONG qui accompagnent les migrants pour leur traversée, l'idée de Giorgia Meloni de faire débarquer dans les pays qui ont financé les ONG ces migrants, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée que cela ?
Ah mais oui, mais sur ce point, moi, j'étais d'accord avec Éric Revel, c'est ce que je disais même tout à l'heure, c'est que il y a un vrai problème de pays européens qui se sont engagés, encore une fois, moralement, à dire nous allons accueillir de manière équitable et qui ne le font pas. Et l'Allemagne, au premier rang, puisque, enfin pas l'Allemagne de Mme Merkel,
mais l'imposer à l'Allemagne. S'ils ont financé une ONG, ces migrants ne viennent pas en Italie, il faut qu'ils aillent directement en Allemagne.
Ah bah, il faudrait voir les procédures juridiques, mais s'il fallait contraindre l'Allemagne, et d'ailleurs pas que l'Allemagne, les pays européens de manière générale, à respecter leur engagement, c'est tout à fait logique, parce que le critère d'accueil ne peut pas être un critère géographique. Et moi, là-dessus, je comprends la position italienne, qui est de dire nous sommes le pays le plus proche de ces arrivées-là, et ce n'est pas normal que cette proximité géographique fasse que nous ayons le monopole de l'accueil, et il faut que ensuite les personnes qui arrivent puissent être réparties selon les engagements, notamment de l'Allemagne. Là-dessus, j'étais d'accord avec Eric, et c'est ce que je disais tout à l'heure. En revanche, sur les ONG, évidemment que les ONG, quand elles travaillent pour sauver des vies, elles essayent de savoir quand même quel va être l'itinéraire des bateaux. Et à partir de là, que les bateaux des passeurs puissent parfois faire des calculs sur cette logique, ça me paraît pas délirant de l'imaginer. Mais si demain, les ONG cessaient d'exister, faisons une hypothèse de pensée, les passeurs s'arrêteraient pas de travailler, enfin de travailler, je veux dire, de faire ce qu'ils font.
Mais est-ce qu'il y aurait autant de gens qui risqueraient leur vie s'ils n'avaient pas l'assurance, peut-être, d'être recueilli par un bateau plus important d'une ONG? Est-ce que, non mais, je me pose la question, c'est une question qu'on peut se poser, c'est pas scandaleux de se la poser. Parce que vous savez, le trafic de migrants, c'est aussi une loi économique. Il y a des gens qui payent, les familles se saignent pour que des gens tentent leur chance en Europe, où ils croient d'ailleurs que c'est le mat de cocagne qui va suffire de passer la main sur le trottoir pour ramasser des billets. Mais c'est une loi économique, c'est-à-dire qu'il y a une offre et une demande. Eh bien, dans l'offre de migration, il y a aussi le rôle que jouent certaines ONG. Je suis désolé de le rappeler.
Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point, parce que on le voit d'ailleurs avec tous les témoignages des personnes qui ont fait cette traversée de la Méditerranée. Quand ils font cette traversée, à la veille de la traversée ou le jour même, ils ne pensent pas au fait qu'un bateau d'une ONG va peut-être les sauver. Ils pensent aux images que tout le monde a vues et qu'eux aussi ont vues, de milliers, et ces images-là ne manquent pas, et elles abondent depuis 5, 6 ans, 10 ans, de gens qui se noient dans la Méditerranée, dans l'abandon le plus total, et qui meurent dans les conditions les plus inhumaines. Donc ces gens-là, quand ils font cette traversée-là, ils se disent qu'il y a un risque, une probabilité très importante qu'ils y laissent leur vie de la pire des manières. Et donc vraiment, je pense que c'est de l'inversion accusatoire, mais volontaire. Je veux dire, je pense que Elon Musk, qui est très intelligent, il sait très bien ce qu'il fait quand il met le doigt sur les ONG. On pourrait, par exemple, mettre le doigt sur le président tunisien, qui a un rôle dans cette crise migratoire, la récente de Lampedusa, plus que trouble, et qui a une politique depuis qu'il est arrivé au pouvoir à Tunis, plus que trouble.
Parce qu'il n'a pas reçu l'aide financière de l'Europe qui lui avait été promise. C'est pour cette raison qu'il a sans doute ouvert les vannes et laissé passer les migrants.
Exactement, et parce qu'il s'inspire de M. Erdogan, de se dire « je vais faire un chantage à l'Europe, j'ai bien vu comment M. Erdogan a fait en 2015, et je fais la même chose, et donc je m'amuse à faire passer des bateaux ou à ne pas les faire passer en fonction de mes revendications politiques, et puis dans une logique vraiment de conflit ouvert, avec des mandats d'arrêt internationaux contre des personnalités européennes pour rien, etc. » Donc on pourrait mettre l'accent par exemple sur ce monsieur, et c'est pas le seul. Mais le faire sur les ONG, c'est-à-dire sur des gens qui font pas ça pour s'enrichir, qui font pas ça pour se faire mousser, qui font ça vraiment pour sauver des vies et qui parfois dans des conditions pour eux-mêmes très très périlleuses, ça me semble être vraiment de l'inversion accusatoire, absolue.
Oui, si on se penche sur le cas de la Tunisie et de ce que veut faire notamment Emmanuel Macron, c'est-à-dire envoyer des équipes pour travailler, pour empêcher que les migrants, Éric Revel, quittent notamment le sol africain, la belle affaire. Est-ce qu'on peut imposer, est-ce que l'Union européenne peut imposer à un État souverain, à ma connaissance, la Tunisie, une méthodologie ou une manière de faire et de gérer la migration?
Mais non, évidemment que non. Mais vous rendez compte où on en
donc
est rendu? C'est-à-dire qu'on paye
les
la
ONG,
Turquie,
les...
on paye la Turquie pour que ce cordon sanitaire, qui d'ailleurs est un artifice de chantage pour M. Erdogan. On paye pour que les migrants ne rentrent pas comme ils veulent en Europe. On paye la Turquie, avec les menaces incessantes de M. Erdogan, qui de temps en temps dit que vous me payez ou pas, si j'ai envie d'en faire passer, j'en fais passer. De l'autre côté, Méditerranée, on va demander au gouvernement tunisien de surveiller mieux ses frontières et on va également les payer. Mais ça, ce n'est pas une politique migratoire. Ça fait combien d'années, je regardais, qu'on fait de la coopération économique en Afrique? Il y a eu l'ancêtre de l'Agence française de développement, qui est un organisme public avec des filiales privées comme la Proparco, qui travaille avec les entreprises françaises pour implanter du business dans ces pays-là. On se dit, c'est du bon sens, si ces gens ont du travail sur place, peut-être qu'ils ne tenteront pas leur chance au risque de leur vie. Bon. Il y avait la Caisse de coopération économique et l'Agence française de développement. Je regardais le chiffre, c'est 16 milliards d'euros par an. Alors, le résultat, il n'est pas à la hauteur, puisqu'on a ce flot de migrants incessant. Donc, sans doute qu'on a aussi laissé faire des pouvoirs politiques sur place, et ils tombent les uns après les autres avec des putschs qui n'en finissent plus, en fermant les yeux sur la façon dont eux-mêmes traitaient de l'argent public français qui était destiné à investir sur place pour créer des emplois. Mais vous avez aussi plein de départements en France, plein de régions qui font de la coopération décentralisée dans ces pays. Parce que c'est l'un des arguments qu'a employé le président de la République lors de son intervention. C'est dire, créons, investissons, créons des jobs sur place. Bon. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution, en fait, pour une raison très simple. C'est que vous allez avoir un mouvement migratoire exponentiel, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et de toute façon, la création de jobs en face ne sera jamais suffisante. Et puis, vous avez un poids de la démographie. La démographie, c'est l'histoire. Ou l'histoire, c'est la démographie. Mais la démographie africaine... Au moment où nous, on a atteint en France un taux démographique au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, la démographie africaine, elle est galopante dans les pays d'ailleurs qui parfois ont des taux de croissance importants. Comment est-ce qu'on va gérer tout ça? La solution passe par l'Europe. J'ai encore en mémoire, décidément, je le cite deux fois ce soir, Emmanuel Macron qui avait expliqué pendant sa campagne présidentielle qu'il faudrait reparler de Schengen. Vous l'avez entendu reparler de Schengen? Non. Quand Rocard... Puisque vous avez cité Macron qui pastiche Michel Rocard, Premier ministre, qui dit...
On ne peut pas accueillir toute la misère.
Mais vous vous souvenez de la fin de la phrase de Michel Rocard? Il dit, et d'ailleurs, nous venons d'expulser 66 000 personnes à nos frontières. Mais la grande différence entre l'époque de Michel Rocard et la nôtre, mon cher Lionel, c'est qu'on n'a plus de frontières. On n'a plus de frontières. On a des frontières extérieures qui ne sont pas vraiment contrôlées, avec des grandes difficultés. On a à Menton, on sait ce qui se passe en venant de l'Italie. Donc ça, c'est quand même un sujet. Comment on le traite? Moi, je ne suis pas un homme politique. Mais oui. Je dis attention. Attention, ce n'est pas juste un détail de l'histoire. C'est un fait majeur qui va prendre à bras-le-corps notre société et d'autres en Europe.
Ça pose vraiment question. Et pour revenir aux ONG ou même aux associations humanitaires, comme le traitait le sondage tout à l'heure, le sondage CSA CNews, Nathan Devers, la question est, faut-il continuer à les financer? Apparemment oui, mais faut-il les renforcer et leur donner plus de moyens encore, à la fois pour permettre aux migrants de passer du continent africain au continent européen, notamment, mais après de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, une fois qu'ils sont ici?
Moi, il me semble que poser cette question, et je ne dis pas ça sur vous, je dis ça parce que c'est en effet c'est la question qui se pose dans le débat public en général, mais poser cette question, c'est vraiment prendre le problème à l'envers, parce que là, on parle de la traversée. Mais une fois que la traversée a lieu, les choses sont déjà faites, si vous voulez. Il faut prendre le problème à la racine, c'est ce que disait Eric tout à l'heure. Et cette question-là est une question mondiale. De la même manière que le réchauffement climatique, il ne viendrait à l'esprit de personne de dire que c'est la France qui va régler mondialement le problème du réchauffement climatique. De même, le fait de vivre dans une économie mondialisée à deux vitesses entre le Nord et le Sud, avec des pays où il y a des blocages politiques, des blocages civiques, des blocages sociaux énormes, et qu'évidemment ça crée des désirs de départ massifs, eh bien ça ne peut... On ne peut penser et régler ce phénomène que à l'échelle mondiale. Et avec une deuxième chose, et là j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Eric, c'est que là où il y a vraiment une autocritique à faire, c'est aussi sur la politique méditerranéenne de la France. Ça veut dire sur les pays aussi qui sont parfois des pays entre guillemets tampons, la Turquie, les pays du Maghreb, où ce qu'on a fait ces dernières années, c'est qu'on s'est fâché vraiment unilatéralement avec tout le monde et avec des pays qui sont même parfois rivaux entre eux. Donc là, c'était ça relève du chef-d'œuvre et il faut penser vraiment à cela.
Vraiment,
ça.
Oui, un dernier mot, parce qu'en fait, il ne faudrait pas laisser croire à ceux qui nous regardent ce soir que la vague migratoire est juste un problème européen ou français.
C'est un problème mondial.
Et ce qui se passe à New York est très intéressant. Eric Adams, qui est le maire de New York, est un maire démocrate. Mmh. Vous voyez, c'est pas un méchant républicain. Et ben, il est en train de suspendre une loi qui oblige la ville de New York à trouver un logement à chaque migrant, hein, ville d'immigration s'il en est New York, puisque l'Amérique s'est peuplée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est sous un flot de migrants incessant. On dit qu'il y a 120, 130 000 migrants dans les rues new-yorkaises en ce moment.
Merci Eric Revel, merci à Nathan Dever, merci d'avoir participé à Ça se dispute. Et dans quelques instants sur CNews, c'est Olivier Clairenfleck avec Soir Info.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.